Bonjour, Nathalie De Broc. Ces femmes qui sont allées au bout de leurs rêves. Des parcours atypiques, des basculements de vie qui nous démontrent qu'au féminin, tout est possible.
Aujourd'hui, Elisabeth Lelier.
Bonjour Elisabeth. Nous sommes installés dans votre cabinet. Vous êtes assis sur un énorme ballon pour vous garder le dos bien droit et éviter de faire des faux mouvements. Dans votre profession, ce serait un comble. Vous êtes
chiropracteur.
Voilà. Mais vous n'exercez pas que à Caen.
Et parfois, je fais des missions humanitaires au Laos.
Alors, ça, c'est venu quand, cette idée-là ?
Il y a 4 ans maintenant. C'est-à-dire que je soigne les gens dans un dispensaire. On a des gens qui viennent, au début ils venaient pas pour ça, mais le médecin généraliste là-bas, dès qu'ils avaient mal au dos, me les envoyait. Et donc j'ai commencé à soigner les gens, puis en fait ça s'est su, et d'une année sur l'autre, en fait les gens savent que je viens à cette époque-là, et donc ils viennent me voir.
Pourquoi le Laos ?
Ah, c'est un coup de foudre. Pendant des vacances où on a fait Thaïlande, Laos et Cambodge. Le sud du Laos, je me suis sentie bien, les gens sont simples, sont heureux. Ça m'a fait un bien fou et ils ont surtout beaucoup besoin d'aide parce qu'ils n'ont rien. Mais ils ne se plaignent jamais.
Est-ce que la chiropraxie, ça a été facile de leur faire...
Alors ça a été compliqué parce que ce n'est pas du tout leur mode de traitement. Alors ils sont habitués au massage, mais la chiro, ce n'est pas des massages. Mais ils sont très réceptifs à tout ce qui va être à tout ce qui touche le corps humain sans médicaments. En fait, ils aiment bien les médicaments quand même parce que c'est un côté on va dire peut-être scientifique. Mais d'un autre côté, en fait, chez eux, la médecine c'est à la fois médicaments, prières et massages. C'est un mix de tout ça et plantes. J'ai oublié. Il y a 4 choses. Et ben moi, je suis arrivée en proposant des soins articulaires, ce qu'ils ne connaissaient pas. En fait, là-bas, dans le dispensaire où je suis, il y a un médecin qui a une formation de kiné. Mais alors, il n'a que la formation, c'est-à-dire qu'il ne pratique jamais, puisque la kiné, ils ne savent pas ce que c'est là-bas. Il n'y a pas de médecin qui donne des séances de rééducation. Quelqu'un qui a une prothèse de hanche, quand ça leur arrive, parce que c'est quand même assez rare, sa rééducation, il l'a fait dans les champs, il l'a fait à la maison. Il n'y a pas de rééducation.
Alors, vous avez convaincu comment ?
Parce que je suis persuasive.
C'était difficile, justement.
Ouais, ça a été très compliqué, parce qu'ils ne connaissaient pas du tout, qu'il n'y a pas de mots pour traduire ça. Donc c'était difficile d'expliquer que le médecin qui faisait donc soi-disant de la kinésithérapie en fait avait aucune idée de ce qu'il faisait parce qu'ils apprennent là-bas sur des manuels mais pas sur des gens qui n'avaient pas la maîtrise du truc. En 3 ans il a énormément progressé parce que justement on a pu échanger, j'ai pu lui montrer des trucs, on a fait un échange de bons procédés. Ce qui était compliqué c'est de leur faire comprendre que c'était pas des massages. Donc c'était efficace en rapidement. En fait, moi, ce qui est bien avec la chiropraxie, c'est que c'est quelque chose qui est efficace rapidement. On voit les gens une fois, deux fois, grand maximum. Or, une mission, on est là 15 jours, 3 semaines. Donc, il faut qu'en 3 semaines, le problème soit résolu au moins dans sa plus grande majorité. Et ça, c'est un défi que j'aime beaucoup. En plus, ils sont très volontaires là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont un sens de la guérison. La compréhension de la guérison du corps.
Qu'est-ce que c'est un sens de la guérison ?
On a tous un pouvoir de guérison. C'est-à-dire qu'on est fait pour ça. À la base, il n'y avait pas de médecin. Les hommes des cavernes, ils soignaient avec des plantes, ils soignaient avec des cataplasmes. On prenait soin les uns des autres. Mais il n'y avait pas cette notion d'assistance comme on peut avoir chez nous, où les gens vont chez le médecin des fois pour un rhume. Mais un rhume, c'est rien. Un rhume, c'est 7 jours. Oui, c'est casse-pied, mais ça ne met pas la vie en danger. Ça ne nécessite pas d'aller chez le médecin. Là-bas, les gens, en fait, ils viennent au dispensaire. Mais quand ils sont vraiment, vraiment mal. Il y a 3 heures de marche à pied la plupart du temps, ou ils viennent en charrette. Enfin, c'est une expédition pour eux. Donc quand ils viennent, il y a vraiment un souci. Et là, dans ce qu'on a vu, moi j'ai vu des fractures. Je veux dire que c'est des choses que je ne verrai jamais en cabinet. Chez nous, quelqu'un qui a une fracture, il va à l'hôpital. Et bien là, le dispensaire, le médecin, il l'auscultait. Il disait, oh, faut peut-être aller voir le chiro, il y a un problème. Ah bah oui, mais il y a un problème, mais c'est pas de mon sort. Il faut le plâtrer ou il faut carrément l'emmener à l'hôpital de la grande ville pour mettre une attelle, une prothèse. Et ça, ils ont pas, ils sont très, très résistants à la douleur. C'est, ça n'a rien à voir.
Alors, ce sens de la guérison, c'est aussi du travail sur soi ?
C'est dans leur façon d'être. Ils savent qu'ils ont cette faculté-là, que si on donne les clés au corps, quand on leur donne au corps, on donne des bonnes plantes, on donne du repos, on protège, on a un pouvoir de guérison. On a tous ce pouvoir-là. Mais eux, ils ont cette espèce de savoir ancestral qui fait que c'est comme ça. Ils ont des sorcières, des rebouteux, des marabouts, vous les appelez comme vous voulez, mais ils ont des hommes médecine dans chaque village. Mais ils laissent aussi le corps faire. C'est-à-dire que voilà, ils savent que la fièvre, c'est normal d'avoir de la fièvre. Si on n'a pas de fièvre, on ne peut pas combattre la maladie. Donc il ne faut pas chercher à la faire tomber tout de suite. Il faut juste surveiller à ce qu'elle ne monte pas trop. Et nous, on a perdu ce truc-là. Donc du coup, ce qui est intéressant là-bas, c'est que quand les gens viennent, c'est vraiment des choses qu'on voit plus ici parce que justement, nous, les gens vont voir le médecin tout de suite. Souvent, nous, les gens, on les voit, ça fait 3 semaines qu'ils ont mal. Là, en France, parce que ils ont d'abord pris des médicaments, puis si les médicaments ne vont pas faire effet, ils vont venir nous voir. Sauf que ça devrait être l'inverse. C'est un problème articulaire, on commence par le chiro et après, éventuellement, on prend un traitement pour soulager si ça peut aider.
Alors, avec le confinement, vous avez pu y aller ?
Non, cette année, j'ai pas pu y aller. Non, l'année dernière, on est rentré juste 3 jours avant d'être confiné. Et cette année, c'est impossible parce que les frontières sont fermées. Et le gouvernement là-bas, pour l'instant, n'autorise pas les missions humanitaires. On n'a pas les visas pour. Ils sont en pourparlers éventuellement à partir du mois de juillet, peut-être pour rouvrir les missions, mais pas toutes. Et donc, notre association, nous, on y retournerait peut-être en novembre.
C'est un peu crève-cœur pour vous ?
Ah carrément, oui. Oui, parce que en plus, j'avais commencé à mettre en place quelque chose, justement un partenariat avec le médecin kiné là-bas. Je voudrais qu'il fasse du boulot de kiné, il est demandeur. Donc, mettre en place des pistes avec des gros morceaux de bambou pour que les gens marchent, par exemple. Moi, j'ai eu des petites grand-mères là, qui ont ce qu'on appelle des canals lombaires étroits, c'est-à-dire qu'il y a de l'arthrose, elles ne marchent plus. Et moins elles marchent, en fait, plus elles s'arthrosent et donc plus elles sont handicapées. Et la famille n'a pas toujours le temps de les faire marcher parce que tout le monde bosse là-bas. Donc, elles restent assises. Alors, elles travaillent parce qu'à la maison, là-bas, tout le monde travaille. Donc, elles cossent des légumes, etc. Mais elles ne marchent pas. Alors que si elle avait deux appuis, mais comme nous, on a dans n'importe quel centre de rééducation, elle pourrait toute seule faire ces pas-là et sans prendre de risques. En fait, il y a plein de choses à mettre en place. Des déambulateurs, c'est tout bête, mais on en a plein. Leur expliquer comment ça fonctionne, c'est un truc tout bête qu'ils peuvent utiliser même s'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas de roue, donc il suffit juste de le soulever, mais c'est un appui qui est bien. Ils ont encore les béquilles sous les bras.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de beaucoup de choses, j'imagine, quand même.
La résilience.
Ils le savent, eux.
Ils ont une faculté, déjà d'adaptation, qui est énorme, qui est incroyable. C'est comme ça, c'est fait et on passe à autre chose. C'est arrivé, c'est pas de bol et on passe à autre chose.
Vous avez su, vous, l'assimiler ?
Oui, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, que je trouve hyper important, en fait. J'ai encore des progrès à faire là-dessus, mais je trouve que c'est une belle façon de voir les choses.
Et alors, quand vous revenez, c'est pas un petit peu difficile, justement, de voir la façon dont on est, nous, peut-être un petit peu trop gâtés ?
Ah, c'est... En fait, le pire, c'était pas l'année dernière, parce que du coup, il y a eu le confinement, mais l'année d'avant, quand je suis rentrée, c'était le mouvement des Gilets jaunes, donc c'était encore en mars, ils étaient encore sur les ronds-points. Et quand je suis arrivée chez moi et que je les ai vus sur le rond-point, je me suis dit, mais c'est pas possible de râler, sachant ce à quoi on a le droit, nous, en France. Je veux dire, à l'hôpital, il n'y a pas de self, il n'y a pas de cantine, c'est les familles qui amènent à manger. Et s'il n'y a pas de famille, la personne qui a personne qui vient le voir, par exemple, les gens qui sont à côté, ils partagent un peu de repas avec lui, ou les soignants partagent un peu de repas avec lui. Enfin, il n'y a pas de cantine. Tout est hyper cher pour eux, tout est payant, il n'y a pas de sécu. Donc c'est aussi pour ça qu'ils n'y vont pas à l'hôpital. S'ils y vont, c'est que vraiment, vraiment, il y a besoin.
Donc, on a plein de choses à réapprendre, nous aussi.
Ah oui, nous, on est beaucoup trop gâtés. C'est génial. Mais à l'inverse, on a complètement oublié la valeur des choses. Pour parler des tests PCR, les gens en font à tour de bras. Un test PCR, ça coûte. On ne se rend pas compte, mais ça coûte. En Allemagne, c'est 120 euros. En Espagne, c'est entre 120 et 150 euros. Chez nous, c'est gratuit. Les gens en font 3, 4 par semaine. Mais oui, mais c'est énorme. Alors que s'il fallait que les gens les payent, je pense qu'on aurait beaucoup moins de gens à faire des tests PCR. Parce que les gens, du coup, feraient beaucoup plus attention, prendraient peut-être moins de risques. Et puis, une fois qu'ils en ont payé 2, je pense que... La Sécu faisait ça à un moment. Vous savez, quand vous alliez à l'hôpital dans une année, ils vous renvoyaient une note d'honoraire, entre guillemets. Enfin bref, ce que ça avait coûté. Parce que prendre conscience de la valeur des choses. Vous allez à l'hôpital, vous y passez une semaine, ça vous coûte rien. Donc c'est normal. Je pense qu'on a vraiment perdu cette notion-là de prise de recul un petit peu par rapport à la maladie, tout simplement.